Bonsoir Claire.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le successeur de Jean Castex aura une fibre sociale, mais ne pas en déduire forcément qu'il s'agirait d'une personnalité de gauche. Le président en visite dans le Val d'Oise pour sa première sortie officielle depuis sa réélection fait durer le suspense, mais distille quelques informations, sans doute pour montrer sa volonté de répondre aux attentes, des attentes exprimées parfois violemment tout à l'heure à Cergy, chahut et jet de tomates cerises au menu. Politique encore, le PS discute avec la France insoumise pour les législatives. Sur le terrain, quelles interrogations pour les militants socialistes. Ces actes de malveillance d'une ampleur sans précédent sur le réseau national de fibre optique, du jamais vu pour la filière télécom. Dans le conflit ukrainien, Moscou qui coupe le robinet du gaz à la Pologne et à la Bulgarie. La réponse de Bruxelles ce soir, vous l'entendrez. Et puis, le roi est mort. Rendons-lui hommage. Le revoir solennel à Michel Bouquet aux Invalides cet après-midi. Tu t'es battu toute ta vie pour disparaître derrière le personnage et l'auteur, a scandé tout à l'heure le comédien Fabrice Luchini. Nous y serons à la fin de ce journal. Et au téléphone sonne ce soir, Fabienne.
Eh bien, ce soir, on attend vos appels d'outre-mer et d'ailleurs aussi, mais c'est de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Réunion, de Guyane que l'on parle, autant d'îles qui ont voté massivement pour Marine Le Pen lors de la présidentielle. Le Pacifique a voté Macron. Ailleurs, score sans appel, Mélenchon au premier tour, Marine Le Pen au deuxième tour. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce vote de rejet parfois, ou d'adhésion, de rejet d'Emmanuel Macron ou rejet de la République? À vos appels au 01 45 24 7000.
France Inter. À quoi ressemblera donc la méthode refondée annoncée par Emmanuel Macron dimanche soir? Comment tentera-t-il de recoudre cette France fracturée où la démocratie, dit certains, est abîmée? Et avec quel gouvernement? Depuis dimanche soir, très peu de choses ont filtré, mais le président s'est donc rendu aujourd'hui à Cergy, dans le Val d'Oise. Premier déplacement officiel en terre pas forcément conquise, un quartier populaire, électorat mélenchoniste et abstentionniste, mais où le vote barrage a fonctionné à plein au second tour. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Vous y étiez tout à l'heure, vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Mais d'abord, ces quelques éléments que le président a donnés sur le profil de son futur Premier ministre.
Viendra-t-il de la gauche ou de la droite? Pour la première fois depuis sa réélection, nous avons pu poser la question à Emmanuel Macron.
Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex venait de la droite. Il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Je mènerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale et à la question environnementale, à la question productive. Voilà.
Environnement, social, productivité, alors un Premier ministre social au vert pour mieux fracturer le bloc de gauche qui tente de se constituer pour les législatives. En même temps, le président vante la fibre sociale de l'ex-LR Jean Castex, si bien qu'on n'est pas beaucoup plus avancé. Fidèle à lui-même, Emmanuel Macron donne des signes d'ouverture, en prenant bien soin de garder toutes les cartes dans son jeu.
Et donc tout ça au cœur d'un bain de foule pour le moins chaotique.
Oui, déplacement organisé un peu à la hâte par l'Elysée pour casser l'image du chef de l'État retranché depuis dimanche dans sa tour d'ivoire. Quelques Macron démission se mêlent au Macron président. On se bouscule dans les allées étroites du marché. C'est un peu la panique.
Non, attention, attention. Qu'est-ce qui se passe? Attention.
Des tomates, cerises, vous l'avez dit, volent et frôlent Emmanuel Macron, mais globalement l'ambiance reste très bon enfant. Ça fait sourire Hakim derrière son stand de fruits et légumes.
C'est bizarre, ça fait bizarre de voir un président, j'avais jamais vu un président de ma vie. Mais ce que je trouve encore plus bizarre, c'est les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents de le voir et deux semaines avant, ils presque tous, ils l'insultent.
Et il les connaît, Hakim, puisqu'il les voit toutes les semaines. Ouchra, elle, n'a pas du tout envie d'insulter Emmanuel Macron, mais comme la plupart à Cergy, elle a voté pour lui par défaut.
Alors Mélenchon au premier tour et au second tour, Macron, on n'avait pas le choix.
Alors elle apprécie la visite, mais elle espère que le président ira au-delà de la séduction électorale.
C'est bien, oui, qu'il y ait une petite reconnaissance quand même de la ville, du quartier populaire, c'est bien. Bon, mais c'est pas tout, quoi. Ça veut dire qu'il nous considère quand même peut-être un peu, mais il faut voir après les actions.
Le chef de l'État promet des actions. Justement, il jure d'aller beaucoup plus vite vers l'égalité des chances.
En conclusion, monsieur le président, ne nous lâchez pas pendant votre quinquennat.
Ne nous lâchez pas, les habitants de ces quartiers sauront lui rappeler ses promesses.
Simon, le baron pour ce récit. Pour l'exécutif comme pour l'ensemble de la classe politique, l'autre ligne de mire cruciale, c'est bien celle des législatives avec des tractations amorcées dès lundi dernier et qui s'intensifient partout. À gauche, la France insoumise, voyez aujourd'hui le Parti socialiste rencontre attendue et jugée positive par les participants des deux côtés de la table. Pas de point insurmontable, dit-on, ce qui signifie potentiellement rupture avec le PS de François Hollande sur l'abrogation de la loi El Khomri, la 6e République ou encore le blocage des prix, des discussions qui vont se poursuivre. Et sur le terrain, qu'en pensent les militants socialistes? Sont-ils divisés? Hugo Charpentier s'est rendu à Auch, dans le Gers, une ville dirigée par le PS depuis près d'un demi-siècle. Écoutez.
Sans surprise, au premier tour de la présidentielle, Isabelle, comme d'habitude, a choisi le Parti Socialiste.
J'ai voté à Hidalgo.
Mais pour les législatives, que faire? Isabelle est plutôt favorable à une union à gauche.
Si ça peut faire avancer les idées de la gauche, oui, pourquoi pas.
Certains disent que ça signera la mort du Parti Socialiste.
Mais qu'est-ce qui est plus important, la vie d'un parti ou les idées et le contre-pouvoir que l'on peut donner à Macron?
Vous êtes partagé alors?
Oui, vraiment, je suis partagé.
Lui aussi est tiraillé. Roland, 72 ans, très attaché à son parti.
Toute ma famille était radico-socialiste et ses fios. J'ai grandi là-dedans.
Alors oui, Mélenchon et la France insoumise, ce n'est pas vraiment son truc.
Les idées, ça va, c'est correct. Mais le personnage me déplaît beaucoup.
Mais selon lui, pour les législatives, il n'y a pas le choix.
Parce qu'on ne représente plus rien, hein, 2%. Que le PS aille tout seul aux législatives, il va faire 2-3 députés.
C'est aussi ce que pense Marie-Josée.
Oui, c'est la mort du PS tel qu'on l'entendait. Bon, voilà, je pense que maintenant, il faut penser à autre chose. Voilà, on est dans une nouvelle société, les gens ont d'autres attentes, il faut savoir un peu se renouveler. Je fais le deuil du Parti Socialiste tel qu'il était auparavant. Hein. Voilà, faut pas se leurrer.
À Auch, militants et électeurs socialistes ne se font plus d'illusions. La campagne des législatives, ils préfèrent l'aborder avec lucidité.
À droite, c'est toute une famille politique qui dit au revoir aujourd'hui à Bernard Ponce, ex-secrétaire général du RPR, décédé à l'âge de 95 ans, on l'a appris cet après-midi, fidèle de Jacques Chirac, dont il a été plusieurs fois secrétaire d'État et ministre, notamment des Dom-Tom, puis des Transports, élu député à 6 reprises. Sa disparition marque la fin d'une époque, réagit Nicolas Sarkozy sur Twitter.
Dans l'actualité aujourd'hui, également clair, ces attaques multiples et coordonnées la nuit dernière au petit matin sur le réseau de fibres optiques.
Oui, notamment sur le réseau de l'opérateur Free et dans une moindre mesure SFR. Conséquence, ralentissement et coupure Internet. Impact sur le réseau fixe et mobile dans plusieurs grandes villes françaises, notamment dans l'Est. Grenoble, Besançon, Reims, Strasbourg. Bonsoir Mathilde Vinceneux. Bonsoir. Du service police-justice de France Inter. On apprend ce soir que le parquet de Paris a ouvert une enquête pénale.
Oui, selon nos informations, 2 câbles ont été sectionnés en Seine-et-Marne, un autre dans les Yvelines et pas n'importe lesquels. C'est ce que les opérateurs appellent backbone, la colonne vertébrale du réseau, des câbles qui permettent de connecter des régions entières. Des recherches sont toujours en cours pour localiser d'autres sites où les équipements auraient été endommagés. La section cyber du parquet de Paris ouvre donc une enquête pour association de malfaiteurs et détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La peine encourue est lourde, jusqu'à 15 ans de réclusion, 225 000 euros d'amende. C'est la DGSI, le service des renseignements intérieurs, qui est en charge des investigations aux côtés des services cyber et antiterroristes de la police judiciaire.
Merci pour ces précisions, Mathilde Vinceneux. À noter que les connexions ont été globalement rétablies ce soir. Sur le conflit ukrainien, au lendemain des annonces américaines sur l'accélération de la livraison d'armes à Kiev, nouveau bras de fer, cette fois sur la livraison de gaz russe visé par Moscou, la Pologne et la Bulgarie. Gazprom suspend l'approvisionnement en gaz de ces deux pays pour cause de non-paiement des commandes en roubles. À Sofia, le gouvernement dénonce un chantage inacceptable, mais Bruxelles n'a pas tardé à répondre et affirme, Angélique Bouin, que dans ce nouveau dossier, les pays victimes trouveront l'Europe à leur côté.
Message très politique de la présidente de la Commission. Les 27, affirme Ursula von der Leyen, font bloc et s'étaient préparés à cette éventualité.
C'est une nouvelle provocation du Kremlin. Mais ce n'est pas une surprise que le Kremlin utilise l'énergie fossile pour faire du chantage contre nous. Notre réponse sera immédiate, unie et coordonnée.
La Pologne et la Bulgarie seront approvisionnées par leurs voisins. Nous continuerons à chercher des fournisseurs alternatifs, à remplir les stocks de gaz partout dans l'Union, a-t-elle poursuivi, promettant que tout sera fait pour que la décision de Gazprom ait le moins d'effet sur les consommateurs. Elle met aussi en garde les entreprises qui céderaient au Kremlin et décideraient de payer leur gaz en roubles. Après la Pologne et la Bulgarie, d'autres pays pourraient bientôt être concernés. Céder serait une entorse, dit-elle, aux sanctions prises par les 27. Sanctions dont le 6e deuxième paquet, qui pourrait contenir un embargo au moins partiel sur le pétrole, est toujours en discussion. Depuis le début de la guerre, l'unité des 27 a été leur force face à Vladimir Poutine. En cessant d'approvisionner certains États en gaz, ils dégainent l'arme ultime. Cela va-t-il resserrer encore les rangs et accélérer les négociations en cours ou au contraire les faire durer? Réponse dans les prochains jours. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et sur le terrain, la Russie affirme aujourd'hui avoir détruit une grande quantité d'armes fournies par les pays occidentaux lors du bombardement d'un entrepôt dans la région de Zaporijjia, dans l'est du pays. Ce que démentent les autorités locales, il n'en reste pas moins que les forces russes reprennent méthodiquement du terrain autour de plusieurs localités dans la région de Kharkiv notamment et dans le Donbass. Quant au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il est arrivé ce soir en Ukraine. Première visite depuis le début de l'invasion russe après son déplacement à Moscou hier. Et autre conséquence du conflit ukrainien, Renault, le constructeur français, a engagé des négociations pour vendre sa participation dans le constructeur russe Avtovaz, dont il contrôle près de 70%, vente à un institut scientifique russe. Objectif, se désengager, se séparer d'intérêts économiques en Russie, mais sans forcément les perdre, ces intérêts économiques à long terme. Bonsoir Maxime Deps.
Bonsoir.
Vous avez eu confirmation que des tractations sont bien en cours entre le constructeur et le gouvernement russe.
Ouais, bien que chez Renault, on réponde no comment. Des discussions au moins sont en cours selon nos informations officiellement. Rien de signé, c'est que juridiquement, c'est compliqué. Renault, on s'en doute, tient forcément, le contraire serait étonnant, me direz-vous, à l'outil industriel qu'il a largement contribué à financer en Russie, à Avtovaz, 2 milliards d'euros investis ces dernières années. Or, pour le rachat par les Russes, on évoque possiblement le versement d'un rouble symbolique, ce qui serait quand même surprenant, commente un syndicaliste en interne. Imaginez que vous ayez mis toutes vos économies dans le chantier de votre maison ou appartement et qu'on vous demande de partir sans rien vous donner en échange. Si départ il y a, il serait somme toute normal que Renault obtienne des garanties, qu'au minimum les deux parties essayent de se quitter bons amis avec clause de retour lorsque la situation le permettra. C'est tout l'objet du deal. Loin d'être anodin pour le constructeur, le marché russe constitue le deuxième marché du groupe Renault derrière la France. 500 000 véhicules écoulés l'an dernier.
Maxime Deps, c'est un indicateur scruté de près tant les enjeux sur la consommation et donc sur la croissance sont importants. La confiance des ménages s'est encore dégradée ces dernières semaines. Elle recule de 2 points avec des préoccupations toujours très fortes sur la question de l'inflation et du pouvoir d'achat notamment. De graves manquements, voilà ce qu'ont donc mis en évidence les autorités sanitaires à l'issue de leur enquête menée fin 2021 sur les pratiques et les travaux de Didier Raoult au sein de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille. Didier Raoult, devenu célèbre pour ses positions sur l'efficacité supposée de traitements comme l'hydroxychloroquine, aujourd'hui discrédité et déjà poussé vers la sortie par son autorité de tutelle. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Quels sont donc ces graves manquements dont parle l'ANSM aujourd'hui?
Eh bien, ils concernent des événements qui ont eu lieu avant la crise Covid. L'agence accuse principalement l'IHU d'avoir mené des recherches sur des patients sans suivre la réglementation très stricte qui les encadre. Plusieurs essais cliniques sont visés dans ce rapport de près de 300 pages. Les scientifiques ont par exemple mené leurs recherches sur des patients sans demander l'autorisation pourtant obligatoire d'un comité de protection des personnes. Concernant une étude sur la recherche de micro-organismes chez de jeunes enfants atteints de gastro-entérite, il manque par exemple une trentaine d'autorisations parentales liées à des prélèvements rectaux sur les jeunes patients. Pour tenter de masquer ces manques, l'IHU aurait falsifié un document envoyé à l'ANSM. Compte tenu de la gravité de ces manquements, l'agence sanitaire demande l'interruption des essais entamés irrégulièrement. Et a saisi la procureure de la République de Marseille, ce qu'elle avait déjà fait à l'automne au moment des révélations de Mediapart.
Oui, sur ce volet de la tuberculose et des traitements testés par l'IHU contre la maladie, que dit l'enquête?
Eh bien, l'ANSM estime ne pas pouvoir prouver pour le moment qu'il s'agit d'un essai clinique. Pour autant, l'agence indique poursuivre ses investigations. La fréquence d'effets indésirables graves des patients ayant reçu cette combinaison d'antibiotiques est plus importante que la normale. Elle s'inquiète pour leur sécurité et va revoir tous les dossiers des patients qui ont été traités ces 6 dernières années.
Hélène Chevalier, merci.
Les premières condamnations aujourd'hui à Bobigny après les violences commises à Aulnay-sous-Bois, à Sevran et Tremblay en France fin mars.
Oui, 3 nuits d'échauffourées déclenchées après la mort d'un homme mortellement touché par le tir d'un policier le 26 mars. 3 hommes ont été condamnés, dont l'un à 10 mois de prison ferme. Ils avaient été interpellés lors des premières heures de violence. Nolwenn Lejeune.
Oui, la mort du chauffeur livreur a eu lieu à la mi-journée et très vite à Aulnay-sous-Bois et dans les communes voisines. La situation s'enflamme. À 16h10, 2 policiers d'Aulnay arrivés en renfort à Sevran sont pris pour cible. Victimes de tirs de mortier artisanaux, de jets de pierre et même d'un bloc de béton, raconte leur avocat Olivier Blondel.
Il y a eu un parpaing, c'est les deux rappellent cet élément-là, assez impressionnant pour eux, qui est passé entre leurs deux têtes, qui s'est écrasé à leurs pieds ou un peu derrière eux. Et la peur en fait s'est poursuivie parce que les jets de pierre ont continué, les jets de mortier également, donc c'est quand même des policiers qui ont été soumis quand même à des faits extrêmement graves. Heureusement que je n'ai plaidé que du préjudice moral et pas des préjudices physiques matériels qui auraient pu être le cas si les policiers n'avaient pas évité les coups ou alors si le prévenu avait mieux visé.
L'homme les menace de mort et prend la fuite en voiture. La Clio noire est interceptée quelques minutes plus tard près de la gare de Sevran. À son bord, deux autres hommes, tous les trois, se rebellent au moment de leur interpellation. Des faits qu'ils nient catégoriquement à la barre du tribunal, tandis que leur avocate s'étonne de l'absence de preuves. Aucune caméra de vidéosurveillance n'a ainsi pu être exploitée. Nous sommes face à trois personnes qui n'en sont pas à leur premier fait. Au casier judiciaire bien garni, rappelle la procureure, des appels au calme avaient pourtant été lancés et ces trois-là ont profité de l'effet d'aubaine. L'auteur des violences, un jeune restaurateur de 23 ans est condamné à 10 mois de prison ferme. Les deux autres, passagers de la voiture, à des jours amende et à du travail d'intérêt général pour rébellion.
Nolwenn Lejeune, le fonctionnaire de police de 32 ans affecté à la BAC d'Aulnay-sous-Bois, avait lui été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'actualité judiciaire encore ce soir, après l'intervention policière toujours sur le Pont-Neuf dimanche soir et la mort le soir de la présidentielle donc de deux personnes à bord de cette voiture tuées de plusieurs coups de feu par un policier armé d'un fusil d'assaut. Le policier en question a été présenté à deux juges d'instruction. Aujourd'hui, les magistrats se demandent notamment s'il était bien en état de légitime défense. S'il avait perdu quelques souvenirs ces dernières semaines, selon ses proches, son public, ses disciples au théâtre et au cinéma, eux, se souviendront. Et ils l'ont dit avec énormément d'émotion tout à l'heure aux Invalides à Paris. Michel Bouquet, monstre sacré du théâtre et du cinéma, a quitté la scène le 13 avril dernier à l'âge de 75 ans. En 100 pièces, en 100 films, Michel Bouquet a fait le tour de l'homme, a déclaré Emmanuel Macron, succédant à Pierre Arditi, Fabrice Lucchini et Muriel Robin, dont il avait été le professeur. Très ému, vous allez l'entendre. Stéphane Capron était sur place pour France Inter.
Le monde du théâtre et du cinéma a rendu un dernier hommage à Michel Bouquet, à cet immense comédien qui a apporté pendant plus de 70 ans les plus grands auteurs. Pierre Arditi a salué le formidable interprète qu'il a été, des classiques aux contemporains, de Hanouille à Pinter en passant par Beckett. Fabrice Lucchini s'est souvenu qu'il a partagé la scène avec lui dans En attendant Godot, dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon. Mais l'hommage le plus poignant a été celui de Muriel Robin. Ils ont partagé 45 ans d'amitié depuis le conservatoire et Michel Bouquet a été présent pendant les moments les plus douloureux de sa vie.
Il y a 15 ans, le métier me tuait. Vous m'avez tancé. Tu n'as pas le droit, Muriel. Tu as le devoir de servir. Le père avait parlé. Monsieur Bouquet, je vous le dis sans emphase, vous m'avez sans doute empêché de mourir et plus encore donné à vivre.
Muriel Robin a écrit cette dernière lettre à Michel Bouquet en osant pour la première fois le tutoiement.
Le roi se meurt, pas vous, pas toi, non, surtout pas toi. Je t'embrasse de toute mon âme avec ce tutoiement que j'ai enfin su te donner la dernière fois que nous nous sommes vus. Je vous aime, je t'aime.
Michel Bouquet disait de Jouvet qu'il était le Dalaï Lama du théâtre. Michel Bouquet restera à jamais le commandeur du théâtre français.
Stéphane Capron, Le roi se meurt mais pas toi, hommage à Michel Bouquet qui avait joué avec Alain Delon également, ou encore Pierre Richard qui avait traversé deux morceaux de siècle sur les planches et sur les écrans. Allez, un peu de sport pour terminer. Demi-finale aller de la Ligue des Champions de football après l'incroyable match Manchester City-Real Madrid hier qui s'est soldé par ce résultat 4-3. Place à Liverpool-Villarreal, le petit poussé du dernier carré ce soir à 21h. Les Reds de Liverpool qui s'appuient notamment cette saison en défense sur leur petit Frenchie arrivé l'été dernier. Ibrahima Konaté, 22 ans, 22 matchs, buteur lors de ses trois dernières titularisations, de plus en plus souvent choisi par le sélectionneur et peut-être, qui sait, bientôt chez les Bleus. Emma Sarango.
Une fin d'après-midi de juillet dernier, des pétards retentissent dans le quartier de la Roquette à Paris. C'est Ibou, Ibrahima Konaté, lui-même venu craquer des fumigènes rouges et blancs sur son terrain d'enfance pour fêter son transfert à Liverpool. 9 mois plus tard, son binôme, l'un des meilleurs du monde, Virgil van Dijk, l'encense sur la BBC.
Évidemment, il est encore jeune, mais c'est incroyable comme il est déjà bon. On doit tous se rendre compte à Liverpool qu'on a de la chance et l'avenir est radieux.
Une revanche pour le Parisien qui s'est certes épanoui durant ses 4 saisons à Leipzig, mais qui avait été très critiqué quand il avait choisi la Bundesliga en 2019. 2017, après seulement 13 matchs en Ligue 2 avec le FC Sochaux, son club formateur, qui tardait à lui offrir un contrat pro. Sans rancune, assure aujourd'hui Omar Daf, à l'époque entraîneur de la réserve du club franc-comtois.
Il avait toutes les qualités pour réussir. Humainement, c'était un garçon top, très intelligent. Voilà, il jouait déjà un rôle de cadre. Et le potentiel athlétique et technique qu'il avait nous faisait croire qu'il pouvait faire une belle carrière de footballeur professionnel.
Ibrahima Konaté, qui compte 13 sélections avec les Bleuets, fait désormais de l'œil à Didier Deschamps.
Liverpool-Villarreal, coup d'envoi à 21h.
Merci beaucoup Claire Chaudière pour le journal. On se retrouve demain.